pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Deuxième top, exactement 13h. Au troisième top, 13h, LIP, c'est l'heure.
J'aimerais bien qu'on dise à chaque fois les travailleurs et les travailleuses, parce que chez LIP, je crois qu'il y a à peu près 800 femmes, 400 hommes et 100 cadres. Je les compte à part, hein. Bon, alors, je crois qu'avec 800 femmes, si la lutte marche comme ça, c'est tout de même beaucoup, aussi à cause des femmes. On a Piaget, bien sûr, qui est l'âme de la lutte, comme on se plaît à le nommer, effectivement, qui est un homme, mais les femmes participent dans toutes les commissions, les femmes font un très gros travail. Souvent, je ne suis pas la seule, on avait l'impression quand même d'une petite vie monotone, la petite ville de province où il n'y a rien à faire le soir. C'était un peu, comment on appelle ça, métro-boulot-dodo, mais c'était pas métro, mais c'est pareil. Et puis, on a découvert de nouveaux horizons. De toute façon, il y a des tas de choses à s'occuper. Moi, je pense par exemple aux immigrés, j'en avais conscience, mais je voyais qu'ils avaient des difficultés, mais je ne les comprenais pas. On travaillera parce qu'on aime notre travail, notre métier, puis parce qu'on sait bien qu'il faut travailler pour vivre. Il n'y a pas de miracle. Si on veut gagner de l'argent, il faut quand même qu'on fournisse un certain travail. Mais il ne faudra pas de brimade, hein. Je crois qu'on ne supportera aucune brimade. Hein.
LIP Manufacture Horlogère, créée en 1867, voit dans les années 60 sa situation financière se dégrader. En 73, LIP fabrique les premières montres à quartz françaises. Le 17 avril 1973, Jacques Saint-Esprit, alors directeur général de l'entreprise, démissionne et la société anonyme LIP dépose le bilan. Dans les semaines qui suivent, des actions de grève ont lieu dans l'usine horlogère de LIP à Besançon et l'usine de Palante est alors occupée et LIP deviendra le théâtre d'une grève qui va connaître une audience nationale. On fabrique, on vend, on se paie. C'est ce qu'ont fait les grévistes de LIP en 1973. Aujourd'hui, que restait-il de la lutte des LIP? Ça va être le thème de notre émission aujourd'hui. Les samedis 17 et dimanche 18 juin 2023 ont été commémorés dans les locaux de l'Union syndicale solidaire, dans le 10e arrondissement de Paris, les 50 ans de la lutte des LIP. Et aujourd'hui, on vous propose la table ronde du dimanche 18 juin 2023 sur les reprises d'entreprises, et notamment sous la forme d'escope. Peut-être un prolongement de la lutte des LIP. Bonne écoute.
Merci à tous d'être présents pour cette dernière table ronde de ce week-end spécial sur l'anniversaire de LIP. Donc moi, je suis Agnès Rousseau, je suis directrice de l'hebdomadaire Politis et je vais animer, modérer, je ne sais pas comment on dit, cette table ronde qui va porter sur la question des reprises d'entreprise. On va parler des stratégies de reprise d'entreprise dans le cadre des luttes, comme à LIP, et puis aussi ce que permettent ou promettent les reprises, récupérations d'entreprise. Notamment sous forme de scope actuellement, donc faire un lien entre le passé et entre l'histoire et le présent et de voir un petit peu comment quel bilan et quels enseignements on peut en tirer. On va laisser la parole d'abord à Roby Border qui est de l'association Autogestion, qui est juriste, militant politique et syndical et qui va nous parler des questions que pose LIP et qui sont toujours d'actualité, notamment ce qui s'est passé il y a 50 ans, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et puis voilà un petit peu, depuis ces 50 ans, que s'est-il passé dans cette histoire de l'autogestion et de la coopération. Ensuite, je laisserai la parole à Olivier Leberquier, qui est avec nous en visio, qui est directeur général de Scopti, ancien délégué syndical CGT de Fralib, et qui nous fera un rappel de l'histoire des Fralib, du bilan depuis la reprise. Comment passer de la résistance contre le patronat et le capitalisme à la gestion coopérative de l'entreprise. Voilà, nous fera un petit bilan de pourquoi ils ont choisi ce statut, etc. et quel bilan ils en font aujourd'hui. Ensuite, je laisserai la parole à Kamel Guémari, qui est avec nous, qui est cofondateur de l'Après-M. C'est un fast-food coopérative de solidarité alimentaire à Marseille qui s'est créé en remplacement d'un McDo dans un bâtiment où il y avait un McDo. Et donc, les salariés ont repris et ont créé un nouveau projet. Pourquoi ce projet s'est créé et puis quel bilan ils en font aujourd'hui. Et puis enfin, Maxime Kijou, qui est chercheur en sociologie et sciences politiques et qui est auteur d'un livre intitulé « Adieu au patronat, lutte et gestion ouvrière dans une entreprise » dans une usine reprise en coopérative. Donc il a étudié et suivi de nombreuses dynamiques de reprise de leur entreprise par les travailleurs. Et aussi, donc, il a fait le bilan des réussites et des échecs. Donc on pourra voir un petit peu avec lui quel bilan et perspective pour conclure, pour terminer cet état des lieux, un petit peu de l'état des reprises d'entreprises par des salariés aujourd'hui, à la fois en France et dans le monde. Je vais laisser tout de suite la parole à Roby Morder de l'association Autogestion pour ce petit bilan.
L'association Autogestion, juste quelques mots de présentation, mais c'est aujourd'hui essentiellement un site sur lequel il y a de nombreux textes, dont des éléments sur l'IP. On travaille avec les éditions Sileps à l'édition de l'Encyclopédie internationale de l'autogestion, qui est librement accessible, là encore, sur Internet. Et on participe, notamment avec Richard Neuville, au réseau international et réseau européen de l'économie des travailleurs, et évidemment bien d'autres choses. Voilà un peu pour la présentation. Je ne veux pas vous raconter l'histoire des entreprises récupérées. Je crois qu'on a des exemples concrets ici et à distance qui seront bien meilleurs, et des personnes qui en connaissent beaucoup plus que moi. Je partirai d'abord d'un constat qui m'importe, c'est l'expérience militante et puis aussi ensuite la sociologie. C'est de toujours conserver en tête le sens pratique des choses. C'est-à-dire quand des gens se mobilisent et font des actions, en règle générale, ils ne pensent pas à la portée de ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire le 14 juillet 1789, en prenant la Bastille, personne ne s'imaginait que c'était possible qu'on pouvait se passer de monarchie. Et bien là, dans les luttes sociales, c'est pareil. C'est-à-dire l'IP, c'est avant tout un exemple de réponse pratique à une situation donnée, à savoir qu'est-ce qu'on fait dans ce type de lutte pour tenir. Pour tenir, ça veut dire il faut tenir financièrement. Qu'est-ce qu'on fait en occupant l'entreprise? Donc c'est d'abord ça. Les interprétations, elles viennent après, même s'il peut y avoir déjà des personnes qui, en fonction de leur passé, ont déjà un avis sur un peu ou une expérience, la manière de penser les luttes. C'est en partie le cas à l'IP aussi. Ça ne vient pas de n'importe où, ça a été, je pense, dit. C'est tout de même une équipe syndicale qui existe, une expérience de 68, une réflexion sur l'auto-organisation des luttes. Bon, je ne développe pas. La circulation de l'information, jusqu'à quel point ça pèse ou pas, c'est aussi important. C'est-à-dire Piaget et Delip sont présents à la Conférence nationale ouvrière, PSU, Alliance marxiste révolutionnaire lutte ouvrière, qui s'est tenue en 1972, donc un an avant, et dans lesquelles il y avait des représentants des chantiers de la Clyde en Angleterre, qui est une grosse expérience, plus que de contrôle ouvrier, mais quasiment de gestion directe, d'autogestion. Et ce n'est pas une petite entreprise, les chantiers de la Clyde, c'est du gros. Ce n'est pas la petite entreprise, petite industrie artisanale. Et par ailleurs, on va le voir, l'IP va ensuite inspirer immédiatement à l'échelle nationale, je pense aux piles, aux chemisiers piles en Ardèche. Je voudrais revenir sur un élément, c'est la critique de l'IP. Il y a des gens qui expliquent à l'époque que non, ce n'est pas de l'autogestion, c'est de la simple auto-organisation, et puis il faut faire attention à ne pas semer des illusions au nom du fait qu'il ne peut pas y avoir un îlot de socialisme dans un environnement capitaliste. Théoriquement, c'est pas faux. Et alors ? Et alors, on fait quoi ? On se contente de la délégation de pouvoir, de se croiser les bras, de faire grève et d'attendre qu'une solution miracle vienne par ailleurs d'un repreneur, d'une autre boîte, de gros actionnaires, d'investisseurs. Et puis c'est tout ce qui nous intéresse. C'est que notre travail, ben on maintienne notre travail, notre salaire, à peu près tel qu'il était, au moins, cette garantie-là, et puis on change de propriété. Eh ben non. Même si ça peut avoir des limites, l'expérience qui est acquise, et c'est le cas à l'IP, et je crois dans d'autres entreprises, quelles qu'aient été les issues, il en reste une expérience mobilisatrice pour la vie, d'avoir, je ne sais pas si ça se confirme après ou pas dans les autres expériences, donc c'est une question plus aux autres intervenants et intervenantes, c'est on a vécu ça une fois, on a réussi à aller extrêmement loin par rapport à ce qu'on pensait être des capacités limitées, parce qu'on nous dit que les ouvriers, les employés, ça a peu de formation, ils ne savent pas faire, il y a toujours plus intelligent, plus savant. Et donc là, c'est ce type d'expérience et qu'on va avoir envie de recommencer. Et d'une certaine manière, même quand on pense à une stratégie de prise de pouvoir par les travailleuses et les travailleurs au niveau politique, c'est une sorte de gymnastique autogestionnaire qui est nécessaire pour établir ensuite, à l'échelle de la société, une société d'autogestion généralisée. Si on attend simplement que le pouvoir soit pris par des gens qui parlent en notre nom, même s'ils disent qu'il faut que les travailleurs et les travailleuses prennent le pouvoir, ça ne marche pas s'il n'y a pas cette sorte de gymnastique. Et puis la dernière question, malgré tout, c'est qu'est-ce qu'on fait quand le premier moment d'enthousiasme, quand il y a la coopérative, quand il y a la reprise d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Qu'est-ce qui se passe ensuite parce que la division du travail existe ? Les situations différentes, l'usure aussi à un moment donné. Bon, ça vaut pour beaucoup de situations d'après-mobilisation d'ailleurs, où on va avoir à nouveau une sorte de division entre les personnes qui vont exercer la direction des entreprises au nom de tout le monde, et puis malgré tout une certaine passivité relative, plus ou moins relative, qui peut s'installer. Ça, par contre, c'est des véritables questions. C'est-à-dire comment on arrive à entretenir à la fois la viabilité et en même temps, et ça, c'est pas facile parce que c'est une préoccupation permanente, comment on lutte contre cette sorte d'usure du pouvoir et de l'exercice du pouvoir. Le dernier point plus technique et juridique, il faudrait, dans les expériences qu'on suit, il faudra qu'un jour on arrive enfin à faire une réforme, voire une révolution, par rapport aux règles du droit concernant les faillites d'entreprises, et notamment la réforme des tribunaux de commerce. Il se trouve que j'ai connu dans mon exercice professionnel des personnes qui, une personne qui avait élaboré assez loin, c'est toujours resté lettre morte. Il faut savoir que les tribunaux de commerce, ils accordent rarement la priorité au plan élaboré par les collectifs de travail, les plans de reprise, même si elles sont solides, par rapport à quelque chose de plus traditionnel, un patron privé, une autre entreprise, une multinationale, parce que ces tribunaux de commerce sont composés uniquement de représentants, de chefs d'entreprise. Et que donc, dans les jugements qu'ils rendent, il n'y a pas de neutralité, il y a une idéologie qui existe. Et ça aussi, c'est un sujet de mobilisation et de réflexion et de revendication pour transformer tout ça.
Bien, merci beaucoup. On va enchaîner avec Olivier Leberquier. Donc, vous êtes directeur de Scopti, ancien délégué syndical CGT. Je vais vous poser la question. Donc, du coup, pourquoi vous avez choisi ce statut ? Qu'est-ce qui a présidé à ce choix ? Et puis, quel bilan vous en faites aujourd'hui ? Est-ce que vous en êtes satisfait ? Est-ce que vous voyez des limites, des freins ? Que vous puissiez nous dire un petit peu tout ça.
Bonjour à tous. Désolé de ne pas être avec vous uniquement, mais bon, par rapport à la présentation que vous faites de moi, Vous dites ancien syndicaliste, mais je suis toujours syndicaliste, hein, puisque je suis à la fois dirigeant de la coopérative, mais je reste toujours un syndicaliste, et on est des syndicalistes qui œuvront tous les jours pour modestement, à notre niveau, aller vers un réel changement de société. Nous, notre histoire a démarré même bien avant ça, si je remontais encore plus loin, les restructurations avec Unilever. Vous voyez, ça s'entend un petit peu, j'ai pas l'accent qui chante de mes petits copains provençaux. Moi, je viens déjà d'une usine qui a fermé au Havre en 1998, où j'étais déjà le délégué syndical central de CGT Fralib. Et Unilever, pour des questions déjà de rentabilité, avait choisi de fermer le site du Havre et délocaliser à Marseille. Alors, à cette époque-là, en 98, on avait déjà mené un combat quand même aussi de 18 mois, mais on était moins bien armés au niveau juridique pour les contrer. Sur le côté syndical, ça en a mené le combat, mais côté juridique, ils avaient un atout de force de leur côté, puisqu'en fait, ils fermaient le site du Havre où il y avait 152 salariés, et ils proposaient à tous un poste équivalent ou avec une promotion à Gémenos. Ils promettaient de créer 158 postes. Donc du coup, sur le côté juridique et l'obligation de l'employeur de reclassement, ils étaient à 100%, donc ça a été très compliqué de les contrer là-dessus. Néanmoins, on a quand même mené un combat à l'époque pour réellement avoir un choix entre continuer à travailler chez nous, auprès de nos proches et nos amis et nos familles, et ou de choisir de continuer notre avenir professionnel avec la multinationale. Malheureusement, ce combat-là, en 98, on ne l'a pas gagné. On n'a pas pu avoir une solution en face de la fermeture. Et donc, bon nombre d'entre nous, 54 familles, ont fait le choix pour pouvoir continuer à travailler, de descendre à Gémenos, à Marseille. Et donc ça, c'est dans 98. Et en 2010, en fait, ce que nous avait pas expliqué la multinationale, c'est que c'était qu'un passage à Gémenos, et après, un peu plus de 10 ans plus tard, c'était plus Gémenos, mais c'était la Pologne si on voulait continuer à travailler avec Unilever. Avec l'ensemble du collectif qui était sur le site à Gémenos, faut dire aussi qu'on avait une force syndicale importante, hein, au-dessus de la moyenne, on va dire, nationale. Sur 182 salariés à Fralib, à Gémenos, on était 98 syndiqués à la CGT. C'est pas malheureusement la moyenne qu'il y a dans les autres entreprises. Donc cette force syndicale et ce rapport de force a été forcément prépondérant dans la victoire finale. Et surtout déjà au départ dans la prise de conscience que si on voulait continuer à travailler et avoir un emploi, la meilleure solution de se battre, c'était de se battre pour conserver nos emplois et l'outil industriel. Donc quand ils nous annoncent le 26 septembre 2010 le projet de fermeture et la délocalisation en Pologne, assez rapidement, on fédère avec l'ensemble des salariés, une très grande majorité des salariés, sur cette idée de se battre pour maintenir l'activité industrielle et les emplois. On s'est pas réveillé le 27 septembre 2010 en se disant « Tiens, ça y est, la solution, on va faire une coopérative ». Ça s'est pas passé de cette manière-là. On était convaincus qu'il fallait qu'on se batte, ça c'est ce qu'on a fait. Et on était aussi convaincus parce que notre rôle en tant que représentant du personnel et l'ensemble des salariés, on l'a toujours, et ça c'est nos anciens qui nous l'ont appris, en priorité la compréhension du fonctionnement économique de l'entreprise. Donc on utilisait toutes les armes que le Code du travail pouvait encore nous permettre d'utiliser à cette époque-là, avec les expertises économiques, à chaque fois qu'il y avait des projets, la reconstitution au niveau du comité de groupe de vraiment la richesse qu'avait l'entreprise. Donc on avait une parfaite connaissance de la rentabilité économique de notre entreprise, et donc ces éléments-là ont été prépondérants. D'ailleurs, la multinationale Unilever n'a jamais, même si leur projet était pour des licences extrêmement économiques, ils n'ont jamais été sur le terrain de dire que l'entreprise n'était pas rentable. Ils ont été sur le terrain de dire que, et ils l'avaient créé de toutes pièces, il y avait une surcapacité de production en Europe de l'Ouest, et donc ils fermaient le site de production qui était le moins rentable, mais l'entreprise était rentable. Et donc, avec l'ensemble des éléments qu'on avait, alors pour étayer mon propos, je vous en donne deux, hein, avec les expertises économiques qu'on avait pu faire. Avec Unilever, sur le site de production sur lequel on se trouve, on a traité au plus fort d'activité jusqu'à 6000 tonnes. Sur les 5 dernières années, ils nous avaient cloisonné à 3000 tonnes. Eh bien, nous, on avait fait une démonstration économique avec nos experts qu'à partir de 1000 tonnes, la totalité des coûts fixes de l'entreprise était couvert. Ce qui veut dire qu'on travaillait 4 mois de l'année pour amortir les coûts et 8 mois de l'année pour enrichir les actionnaires. Et ça n'a jamais été démenti par notre direction. D'autres éléments concernent nos salaires. On avait fait une étude sur les salaires bien avant l'annonce de la fermeture, parce qu'on avait marre de subir des négociations salariales et de déjà là de pas avoir des réponses positives pour les salariés en termes de revendications. Et donc on avait fait une étude sur l'évolution de notre salaire sur 20 ans entre 1989 et 2009, et on s'est aperçu que sur ces 20 années, un salarié qui rentrait au plus bas niveau à Fralib en 89, il était rémunéré 60% au-dessus du SMIG, alors qu'en 2009, il n'était plus payé qu'à 3% au-dessus du SMIG. Dans la même période, un site de production en moins, puisque en 89, il y avait Le Havre et Gémenos. Au global, les deux entreprises réunies, ça faisait pas loin de 400 salariés. Là, on se retrouvait avec 200 salariés en moins, un seul site de production, des salaires qui avaient été diminués de près de 60% par rapport au SMIG. Donc, vous voyez un petit peu le niveau de rentabilité que l'entreprise avait, avec, en additionnant les deux sites de production, le même volume de production fait sur Gémenos en 2009 que si on additionnait en 89 celui du Havre et celui de Gémenos. Donc, une rentabilité énorme. Et de là, on a été encore poussé plus loin pour mettre quelque chose de concret à la fois pour les salariés, mais aussi pour les consommateurs, puisque vous savez que les patrons, pour eux, on n'est pas des hommes et des femmes, on est des coûts. Et donc, pour eux, le travail, c'est un coût. Donc, ils nous qualifient comme ça. Donc, on a été chercher ce que représente à leurs yeux le coût du travail à Gémenos, donc à l'époque, en 2009. Et on l'a mis en parallèle avec la vente d'une boîte de thé, Lipton ou Elephant, vendue dans le commerce à cette époque-là entre 1,60€ et 2,80€. C'est à peu près en fonction des circuits de distribution. Eh bien, nos salaires à cette époque-là, la totalité, cotisation salariale et cotisation patronale, ça pesait 14 centimes dans la boîte de thé. Donc, autrement dit, si on avait eu l'idée de venir travailler gratuitement pour sauver l'entreprise, l'impact sur la boîte de thé était de 14 centimes. Alors, on a poussé encore aussi plus loin, puisqu'on avait fait la même analyse pour les productions en Pologne, de l'usine de Katowice, et là, eux, ils étaient à 6 centimes dans la boîte de thé. Sauf que l'usine de Pologne était simplement utilisée pour les productions vendues en Pologne et en Europe de l'Est. Et les produits, en moyenne, étaient vendus moins d'un euro. Nous, on ne voulait pas opposer les travailleurs polonais et nous, hein, ce n'était pas la question. Hein. Et c'était pour faire la démonstration que, économiquement, il n'y a rien qui justifie la fermeture. Et donc, à partir de tous ces éléments-là, on se bat pour conserver nos emplois industriels, on défend, on se bat. Et donc, on se lance dans cette bataille. On mène le combat syndical, bien sûr, parce que sans combat syndical, il n'y a rien qui se passe. Le combat juridique, je l'ai dit, combat politique, combat économique. Et donc, on a fait annuler trois procédures de ce qu'ils appellent, eux, plan de sauvegarde de l'emploi. La quatrième, elle a été validée, mais parce qu'on a signé un accord de fin de conflit au bout de 1336 jours, d'où le nom de la marque qu'on a donné à nos produits. Si je reviens à la genèse de notre projet, quand on rentre en conflit le 26 septembre 2010, assez rapidement, encore une fois, on se bat pour maintenir l'activité sur le site et nos emplois. Et assez rapidement, on se dit le meilleur moyen de pouvoir y arriver, c'est de porter une solution alternative. Donc, on présente un premier document de quatre pages, en janvier 2011, donc un peu plus de trois mois après l'annonce de la fermeture, et dans lequel on envoie un certain nombre de pistes, notamment la possibilité de maintenir une activité industrielle sur le site. Et avec ce document-là, on fait le tour de l'ensemble des collectivités pour aller chercher des soutiens. Et on obtient une subvention à l'époque du conseil régional pour travailler sur une solution alternative. Donc, on désigne des experts avec cette subvention et on travaille un peu plus précisément sur le projet. En même temps, évidemment, on mène la bataille contre la multinationale. Et rapidement, on sort un premier document en juillet 2011, puis un deuxième final en 2012 sur notre vision de comment on peut trouver une solution alternative à la fermeture. Et là, donc, du coup, ça répond à une des premières de vos questions, pourquoi la coopérative? Nous, dans ce document-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des militants syndicaux qui se battions pour conserver nos emplois et l'outil industriel. Donc, dans ce document-là, le premier point qui arrive, c'est la possibilité qu'un tiers vienne reprendre l'entreprise. Parce que si tout au long du combat, à un moment donné, ça avait été le cas, je ne vous cache pas qu'on aurait analysé. Alors, évidemment, plus on a avancé dans le temps, plus la réappropriation de l'outil industriel, on s'était emparé. Donc, c'était ce qu'on aurait préféré, mais on n'écartait pas cette piste-là. La deuxième possibilité, c'était de créer ce qu'on appelle une SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Pourquoi? Parce que quand Unilever achète la marque Elephant dans les années 70, la marque, elle est née à Marseille il y a plus de 120 ans maintenant, fin des années 1800. Et à l'époque, quand Unilever l'achète dans les années 70, la totalité des plantes aromatiques et médicinales sont issues du terroir local. En 2010, quand ils nous annoncent la fermeture, et encore aujourd'hui, ce que fait une île de verre, il n'y a plus aucune plante qui vienne du tissu local. Donc nous, notre volonté, c'était de relancer la filière des plantes aromatiques et médicinales en France, et aussi de revenir à des produits nobles, de plus utiliser les arômes chimiques comme le fait la multinationale Univers. Ils le font, ils ont mis ça en place à partir du début des années 2000. Et donc voilà, un petit peu le contenu de notre projet, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein. Le volet relance de la filière des plantes aromatiques, ben, ça correspondait tout à fait à une possibilité de prise de part dans une SCIC de la région, puisque c'est son volet économique, et la partie relance auprès des producteurs aurait pu se faire de cette manière-là. Bon, malheureusement, on est sorti du conflit en 2014, il y a eu des élections, ça ne vous a pas échappé, mais bon, par manque de courage politique, à mon avis, ils ont pas voulu aller sur le modèle SCIC. Le troisième modèle, donc c'était le modèle coopératif, j'y reviendrai juste après, et le quatrième, c'était celui qui, à nos yeux, c'est celui qu'on voulait pousser au maximum. On le présentait comme ça, on disait un modèle d'entreprise à créer qui réponde complètement aux revendications des travailleurs et à la vision qu'on a de ce que doit être une entreprise. Et donc, c'était plutôt ça qu'on voulait, si jamais on obtenait la réappropriation de l'outil industriel. Bon, assez rapidement aussi, là, sur ce côté-là, on a vu que ça allait être compliqué. On avait déjà, nous, le combat à mener contre l'Innovert. C'est possible de créer un autre modèle d'entreprise en France, ça serait possible, mais encore faut-il qu'on obtienne des majorités qui portent une nouvelle loi avec le contenu dedans et qui obtiennent une majorité parlementaire. Donc autrement dit, un autre combat. Et nous, bon, on avait déjà celui à mener contre la multinationale Univers, on n'a pas entamé ce combat-là. Néanmoins, ça vaut le coup quand même de se poser quelques minutes et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait créer comme entreprise différente. On a donc finalement choisi le modèle coopératif qui se rapproche le plus de nos revendications. Pourquoi je le disais comme ça? Parce qu'en fait, je donne deux éléments pour expliquer pourquoi le modèle coopératif n'est pas forcément la panacée de ce que nous, on souhaiterait. Nous, ce qu'on aurait voulu, c'est par exemple graver dans le marbre la répartition des résultats de l'entreprise. Dès le départ, nous, on a décidé que les coopérateurs, on a décidé du montant minimum du capital quand on a démarré en 2014, et on a décidé que le capital Ascopti n'était pas rémunéré. Impossible pour nous d'imaginer qu'on se mette dans la peau de ceux qui ont fait en sorte ferme l'usine du Havre, qu'on ferme ensuite l'usine de Marseille, parce qu'en fait, pourquoi ils ont fermé? Ils ont fermé pour alimenter encore plus l'appétit des actionnaires. Donc, on ne voulait pas devenir des actionnaires et on ne veut pas devenir des actionnaires. Donc, le capital dans l'entreprise n'est pas rémunéré. Dans les statuts, ce qu'on a mis, c'est que 50% est en reversement en participation aux bénéfices à l'ensemble des salariés à part égale, pas en pourcentage du salaire. 35% en investissement et 15% en réserve. Et donc, du coup, aujourd'hui, les modèles d'entreprise ne permettent pas de le graver dans le marbre, puisque à chaque année, à chaque assemblée générale, on peut réviser cette distribution. Ce qui nous gêne, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui la pilotons, l'entreprise. On est 58 coopérateurs, 38 salariés. Sur les 38 salariés, 36 sont coopérateurs. Donc, il n'y en a que deux qui n'ont pas vécu le conflit. Et donc, on a encore cette histoire. Mais voilà, on n'est pas éternel, puis on a envie que la coopérative, moi j'y serai peut-être plus, mais que dans 50 ans, il y aura des débats comme vous organisez aujourd'hui autour de Scotty et 1336, et que du coup, ces valeurs-là qu'on a portées, on peut les faire perdurer. Un autre exemple, nous, quand on travaille sur notre modèle coopératif, on établit un organigramme, on a les différents services qui s'entrevauchent, le conseil d'administration qui est élu par les coopérateurs, qui aujourd'hui est composé de 9 personnes, et à l'intérieur de ce conseil d'administration, on a décidé de fonctionner pour la vie de tous les jours avec un comité de pilotage qui est composé de 3 personnes, donc le directeur général, le responsable des achats et moi-même le président de la coopérative. Et on fonctionne avec ce qu'on appelle un comité de pilotage élargi. C'est-à-dire que quand on se réunit, on élargit la discussion sur le sujet à le ou la ou les personnes qui ont une valeur ajoutée à porter sur le sujet. Et quand on a des décisions à prendre, à ce stade-là, on reste à la proposition de décision. On écrit un document, on le soumet à l'ensemble du conseil d'administration. Si la proposition de décision passe ce cap-là, à ce moment-là, ça devient une décision qu'on applique. Et on la communique aux coopérateurs. Et cette décision, quand on réunit les coopérateurs, si une décision qui est prise à ce niveau-là, après coup, les coopérateurs décident majoritairement qu'elle n'est pas bonne, à ce moment-là, il faudra la détricoter, parce que ce qui est souverain chez nous, c'est l'assemblée des coopérateurs. Et donc, pourquoi on l'a mis en forme de cercle? C'est bien pour symboliser que il n'y a rien qui peut sortir de la coopérative sans que ça passe par les coopérateurs. Parce que nous, notre modèle économique, on a créé notre marque 1336, mais c'est long, c'est dur à se développer. On n'a pas obtenu de continuer à avoir la marque éléphant, donc ce qui fait que au-delà du côté politique, on continue à penser qu'on avait raison de le revendiquer, mais on aurait eu tout de suite 450 à 500 tonnes d'activité. Il a fallu qu'on se tourne vers une autre activité qui consiste notamment à proposer nos services à la grande distribution ou d'autres acteurs qui ont des produits mais qui n'ont pas d'usine et de produire pour eux. Donc on a deux volets d'activité, notre volet sur la marque 1336 et le volet pour les autres marques. Et donc, pour travailler avec ces autres marques, dans le modèle actuel, il faut passer des certifications. C'est des certifications qui sont mises en place par le modèle capitaliste. Et on s'entend dire que notre organigramme, eh ben non, c'est pas un organigramme, il faut qu'on en présente un, parce que le système de société dans lequel on vit, s'ils n'ont pas le fameux organigramme en pyramide, ils sont pas contents. Il leur faut des responsables, il faut qu'il y ait un nom, etc. Donc, il a fallu qu'on produise un organigramme en pyramide, on l'a fait avec les différents services de l'entreprise, mais nous, ce qu'on a mis tout en haut de la pyramide, c'est l'Assemblée Générale des Coopérateurs. Voilà. Et après, en dessous, on a le même concept que ce que je viens de vous expliquer. Je pourrais juste dire un petit truc par rapport aux 50 ans de LIP. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Charles Piaget en pleine lutte. On était en juin 2013 et je l'ai rencontré à l'occasion de l'Assemblée Générale des Amis de Mediapart, où il nous avait sollicité Édouard Martin pour Florange, moi pour Fralib et Charles Piaget pour les LIP. Et cette journée que j'ai passée avec lui, avec le film, nous a donné beaucoup d'idées. Et quand on est ressorti de cette journée-là, quand on est redescendu à l'usine, on cherchait à ce moment-là des modes d'action qui soient en lien avec le combat qu'on menait, mais aussi le projet alternatif qu'on portait. Et notamment, dans les discussions que j'ai eues avec lui, les commissions qu'ils avaient créées, le fameux slogan « On fabrique, on vend, on se paye », nous a donné l'idée à l'époque, Unilever disait qu'on avait tout cassé à l'intérieur de l'usine. Parce qu'en fait, comme on est des syndicalistes CGT, on peut plus passer, on peut pas, dans leur esprit, c'est pas possible qu'on soit des gens qui veulent continuer à travailler. Donc, ils portaient ça pour nous déstabiliser. Donc, on voulait relancer les machines, alors qu'en fait, nous, on les protégeait pour pouvoir porter notre projet. Donc, on a travaillé avec l'argent de la solidarité qu'on a eu d'aller acheter un peu de matières premières auprès des producteurs locaux. On a acheté du tilleul. On a fait tourner nos machines, on a fait ce qu'on a appelé une production militante et qu'on a vendu pour la première fois en septembre 2013 à la fête de l'UMA. Et donc, du coup, ce tilleul des baronnies, puisque c'est avec le tilleul qu'on a symboliquement choisi de faire ça, on l'a fait la deuxième année, puisqu'on n'était pas encore sorti de conflit en 2014. Et on a décidé, quand on a créé la coopérative, de chaque année, de faire un millésime du tilleul des baronnies. Donc, on a, dans nos références, le tilleul des baronnies. Quelque part, c'est ce tilleul des baronnies, c'est un petit peu le fruit de la rencontre avec Charles Piaget.
À Besançon, cette année-là, un millier d'hommes et de femmes se sont levés. Est-ce qu'on fait des vers avec l'actualité immédiate? Poète, est-ce ton rôle de témoigner pour le feu qui naît? Est-ce qu'on peut écrire des chansons sur ces femmes qui se sont mises en dimanche pendant 8 mois parce qu'il fallait montrer qu'on était des gens respectables et que la grève, ce n'est pas le laisser aller, mais la rigueur? Tu fais donc des vers avec la dignité des autres, poète depuis ta chambre parmi tes bouquins. Est-ce qu'il est digne de saluer la classe ouvrière de loin quand peut-être tes vers, elle n'y comprendra rien? Il va bien falloir s'y résoudre, l'étincelle ce n'est pas moi. Je vais de ville en ville, je porte le feu, je suis le sang. Ô jeune femme qui descendiez sur Besançon cette année-là, vers le mois d'août, en portant comme un sacrifice vos clameurs, car c'était la première fois que vous aviez un peu peur. Je reste au bord de vous, timide, n'osant rien faire. Est-ce qu'on peut faire des vers avec la gravité de vos gestes et votre honneur? Vous êtes mis debout, soudain vous étiez devenu l'espoir du monde, vous, petite dame coquette et sans histoire, sans passion. Le premier jour, l'un de vous a dit, la grève sera longue, c'est avec les pieds dans la neige que nous finirons. C'est donc facile de faire des vers sur le courage et sur la peur. On fait des vers avec l'espoir, avec la vie, avec les ongles qui s'accrochent au réel, avec des mots qui m'ont été soufflés cet hiver à Besançon, parce que le vent souffle dans le dos du poète et le crible de mots qui ne lui appartiennent.
bas.
On poursuit l'écoute de la table ronde du dimanche 18 juin 2023 sur les reprises d'entreprises et notamment sous la forme de Scope.
Intervention donc de Maxime Quijoux, donc auteur d'un ouvrage sur ces questions de reprise. Je vous laisse la parole pour un tour d'horizon de la situation.
Effectivement, je vais essayer de poser un bilan, en fait, pas forcément des échanges qu'on a eu, plutôt sur le panorama, en fait, on va dire au niveau national, en fait, des questions de reprise d'entreprise. Je vais vous expliquer d'où je parle. Je suis donc sociologue. J'ai longtemps suivi, en fait, la reprise d'entreprise. J'ai fait ma thèse sur l'Argentine. Et puis ensuite, quand je suis rentré d'Argentine, la question s'est posée. Alors maintenant, ça date un peu. Ça date de 2012. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque-là, il y avait le cas de Fralib qui était soutenu par François Hollande. Et puis de l'autre côté, il y avait également Nicolas Sarkozy, on l'a un peu oublié, qui soutenait cette entreprise de ferry, dont évidemment j'ai oublié le nom, quelqu'un va pouvoir m'aider, mais qui va s'appeler My Ferry Link par la suite, et qui va malheureusement, alors je ne sais pas si c'est un signe politique, mais être liquidé quelques années plus tard. Je vais essayer tout simplement de vous faire un petit panorama, en fait, général des reprises d'entreprises par les salariés. Alors on a beaucoup parlé de termes de récupération, mais en fait récupération, c'est une espèce d'hispanisme, hein, justement, puisque beaucoup de reprises d'entreprises ont lieu en Amérique du Sud et en particulier en Argentine, mais en fait le terme plutôt plus courant, en fait, en France, c'est le terme de reprise d'entreprise par les salariés en SCOP. Je suis désolé, j'ai souvent ce rôle-là, mais je vais faire un peu le rabat-joie. C'est un peu ma fonction de sociologue. Moi, je suis admiratif des cas comme ceux qu'on a entendus cet après-midi, mais c'est un peu l'arbre qui cache pas la forêt, mais c'est l'arbre qui cache le désert, si vous me permettez l'expression, puisque parmi les créations de SCOP en France, on évalue environ entre 6 et 10% des créations de SCOP en reprise d'entreprise. Donc, ce qui inversement veut dire qu'entre 90 et 94%, on n'a rien à voir avec des reprises d'entreprise. D'accord ? La plupart sont des créations, ce qu'on appelle ex nihilo, c'est-à-dire qu'un ensemble d'entrepreneurs vont décider, par exemple, comme alternative économique, comme beaucoup d'entrepreneurs qui décident tout simplement de se réunir pour gérer une entreprise collectivement. Ensuite, on a ce qu'on appelle des transmissions saines, qui sont aussi des reprises par les salariés, mais pas dans des cas d'entreprise défaillante, c'est-à-dire que c'est le patron qui décide de lui-même de laisser l'entreprise à ses salariés. C'est quelque chose qui se développe de façon un peu silencieuse, hein, mais ça représente une SCOP sur 5 au niveau des créations, ce qui est un petit chiffre, d'autant que dans ces transmissions saines, beaucoup concernent des entreprises très grosses en termes de volume d'emploi, donc c'est un enjeu extrêmement important. Ensuite, on a des transformations d'associations, très souvent aussi en SIC, par exemple. Et le tout dernier, les reprises d'entreprises pour les salariés. Juste pour vous donner un ordre d'idée, est-ce que vous savez combien déjà il y a de liquidations judiciaires par an ? Environ 60 000. Sur ces 60 000, vous savez combien il y a de reprises d'entreprises par les salariés en SCOP ? On l'a dit plus ou moins, une dizaine. C'est-à-dire que ça n'existe presque pas. Donc, ce n'est pas parce que c'est très faible que ce n'est pas intéressant, que ce n'est pas important. D'accord ? Moi, ce que je vous propose comme réflexion pour aller assez vite, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a si peu de reprises d'entreprise. D'accord ? C'est quelque chose vers quoi j'ai été conduit, parce qu'à un moment donné, quand même, ça pose question. Je vais vous évoquer une série de raisons. La première, c'est que tout simplement, l'écrasante majorité des salariés ne connaissent pas le statut SCOP ou les statuts SIC, tout simplement. Malgré une campagne de pub de la Confédération Générale des SCOP qui essaye depuis une dizaine d'années de faire connaître un peu plus le modèle, mais vous posez la question un peu autour, bah, peut-être pas autour de vous, parce que j'imagine que vous êtes entouré de militants également, mais en dehors de cercles militants, vous verrez, y compris hein, parmi les réseaux syndicaux, je suis pas sûr que beaucoup connaissent. Alors peut-être depuis l'expérience de SCOP, si ça a peut-être un peu plus popularisé l'expérience parmi les milieux syndicaux, la méconnaissance tout simplement du statut explique en fait que lorsque une défaillance d'entreprise se présente, les salariés se disent bah, la boîte va fermer, on n'a pas d'autre solution, on va essayer de gratter des sous, et puis terminer, quoi. Le deuxième point, c'est que quand l'idée est avancée, il y a une inquiétude des salariés. On vous dit, vous allez mettre tous vos sous collectivement dans une entreprise qui ne marche pas très bien. Ce n'est pas forcément un projet qui fait sens ni qui fait envie pour les salariés. Surtout qu'on sait bien que dans des contextes de liquidation, il y a énormément de tensions également entre les salariés, qu'il y a une tendance à vouloir sauver sa peau, sauf peut-être dans des contextes où le syndicalisme est présent. Le syndicalisme quand même tient quand même cette dimension collective. Mais dans les espaces où il n'y a pas de syndicalisme, et comme vous le savez, c'est extrêmement majoritaire également en France, c'est 10% de taux de syndicalisation en France, donc C'est des expériences qui sont plutôt inquiétantes quand on parle de projet de reprise d'entreprise pour les salariés. Je crois que c'est Robbie Mordor qui le signalait tout à l'heure en début de séance. Les tribunaux de commerce sont tenus par des retraités chefs d'entreprise. Je veux dire, c'est une juridiction un peu particulière. On pourrait s'imaginer dans un monde idéal que ça pourrait être paritaire quand même, peut-être comme d'autres institutions, mais non, là, les tribunaux de commerce sont tenus par des chefs d'entreprise, qui fait que lorsque des projets de reprise par des salariés, alors sous pavillon CGT, vous imaginez la réaction que peuvent avoir ces magistrats, hein, ce qui est souvent le cas, donc effectivement, ça pose un sérieux souci. Ensuite, en termes de moyens, ceux qui souvent mènent la bataille des reprises, c'est la Confédération Générale des SCOP et au niveau régional, les unions régionales, par l'entremise de petits soldats, si je puis dire, de la coopération, pas petits dans leur importance, mais dans leurs moyens, que sont les délégués régionaux. C'est des salariés des unions régionales qui sont là pour accompagner les créations et le développement des coopératives. Sauf que la CGSCOP est une petite association, c'est une association, il ne faut pas l'oublier, avec des moyens réduits, et surtout avec l'idée que, justement, si j'ai moyens réduits, je ne vais peut-être pas mettre toutes mes forces dans une bataille qui, quand même, semble mal engagée. Très souvent, quand on parle de reprise, d'entreprise défaillante. Il y a cette idée très ancienne aussi à la CGSCOP de refuser d'être la voiture balai du capitalisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour venir faire les pompiers des entreprises qui sont mal au point. On est un mouvement d'entreprise performante. On n'est pas là pour être toujours associé en fait à ces entreprises qui sont mal au point et qu'on est censé sauver. Enfin, des choses plus évidentes, hein, un manque de capital, ça c'est quelque chose, c'est le grand combat du mouvement coopératif depuis le 19e siècle. Hein. L'ancêtre de la CGSCOP, la Chambre consultative des associations ouvrières de production du 19e siècle, se crée en même temps que la banque coopérative. Qu'une banque coopérative, c'est un symbole très fort, c'est-à-dire que c'est vraiment une question centrale dans ce genre d'entreprise. Enfin, il y a un manque, je dirais, de culture coopérative en général, tout simplement. C'est-à-dire qu'on en parlait avec Kamel juste avant, c'est-à-dire que quand on conçoit l'entreprise, et à raison, très souvent, on l'aperçoit de façon antagoniste et agonistique. C'est-à-dire qu'on est un salarié qui se bat contre le patron, sauf qu'à un moment donné, quand on passe en coopérative, ce logiciel, il fonctionne plus. En tout cas, il fonctionne de façon beaucoup plus complexe, surtout lorsqu'on parle de petits effectifs. Hein, je ne sais pas combien vous êtes à l'APREM, mais Olivier parlait d'une quarantaine de personnes, de salariés. On ne peut plus penser en termes de rapport de force. Et ce passage-là, il est extrêmement compliqué pour beaucoup de salariés. Pourtant, ce type de modèle, ce type de reprise est très efficace. Il y a des statistiques qui sont sorties, pour le coup, et qui montrent que, en termes de taux de survie à 5 ans, 70% des reprises d'entreprises existent toujours, en fait, contre 50% pour des entreprises conventionnelles. Donc, il y a un taux de pérennité qui est plus élevé dans le cas de reprise que dans des entreprises conventionnelles. Et dernier petit point, alors comment on pourrait, finalement, développer les reprises d'entreprises au niveau national. Alors là, c'est une vraie question politique. Hein. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas des milliards de solutions. C'est de passer par l'État et passer par les politiques publiques et donc passer par les partis politiques. Ça voudrait dire des politiques publiques en direction des salariés sur la question de la formation. On n'a pas de culture coopérative en France. Ça n'existe pas. Je sais bien qu'ici, on est tous très au fait, mais en général, on n'a pas de culture coopérative. Alors j'ai vu que Marine Tondelier appelait à une coopérative pour... Mais très bien, génial, mais qu'est-ce qu'on met derrière et qu'est-ce que c'est qu'une culture coopérative en France? Ensuite, la question du capital, elle est centrale, donc je ne vais pas y revenir, et la question des marchés. Les marchés, notamment les marchés publics. Il faut savoir que pendant très longtemps, le marché de la construction était tenu en grande partie par les coopératives. Un quart des marchés publics était réservé pour les coopératives de production. Ça a sauté quand? Au début des années 2000. Pour quelles raisons? À cause des règles de concurrence européenne.
Bien, je vais laisser la parole à une deuxième expérience, du coup, avec Kamel Guémari, qui va nous expliquer comment on met en coopérative un fast-food. Pourquoi ce choix de coopérative et puis quel bilan vous en faites aujourd'hui?
Bonjour à toutes et à tous. D'ailleurs, je suis content et ravi de retrouver ces locaux, parce que pendant la lutte, j'ai passé des heures et des heures avec d'autres camarades et avec l'intersyndicale. Il y avait ATAC, il y avait un soutien énorme des collègues parisiens sur la lutte des McDo. Donc nous, on est parti d'une lutte d'un restaurant qui est dans les quartiers nord, qui est né en 92. Quand McDonald's est venu s'installer à l'époque en 92, c'était pour dynamiser l'emploi. et nous vendre un rêve. Nous, on a essayé d'y croire. Moi, j'ai travaillé 3 ans pour McDo, mais 20 ans contre McDo. J'ai travaillé en tout et pour tout 23 ans sous cette enseigne-là, quoi, en tant que salarié et en tant que syndicat. J'ai vécu des expériences extraordinaires. C'était un restaurant pas comme les autres, parce que la plupart des travailleuses et des travailleurs au sein de ce restaurant sont issus de familles monoparentales, comparé à d'autres restaurants que le turnover il est très élevé. Et c'est des étudiantes et des étudiants qui travaillent. La plupart, c'est leur première expérience de travail, où ils sont obligés de travailler pour pouvoir payer leurs études, de pouvoir se nourrir. Donc nous, on avait le temps de réfléchir et d'essayer de s'auto-organiser, d'améliorer un peu nos conditions de travail. Et c'est ce qu'on a voulu pour nous. On a essayé de le vouloir un peu pour nos camarades, nos voisins, parce qu'on était dans une structure de 24 restaurants, 1200 salariés. L'une des premières luttes, ça a été de pouvoir créer une unité économique et sociale, pour qu'on puisse avoir des représentants syndicaux, pour qu'on puisse essayer de pouvoir faire valoir nos droits et représenter les salariés. Donc ça a été une première victoire. La deuxième, on a commencé un peu à réfléchir. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs restaurants. J'ai travaillé dans 19 restaurants. Donc j'ai appris à connaître un peu pas mal de camarades. Et j'ai remarqué que nous avons toutes et tous les mêmes embauches, les mêmes formations, les mêmes évolutions sous cette enseigne, et que l'hamburger avait le même goût, que ce soit à Marseille, à Paris ou dans d'autres villes. Nous, en tant que salariés, on a réussi à obtenir pas mal de droits. On a réussi à obtenir un 13e mois, une participation de bénéfices, même s'ils arrivent à l'optimiser et la faire disparaître. Donc à travers cette lutte syndicale, on a essayé de donner un sens à cette lutte et on a essayé de l'enrichir politiquement. Et on a commencé à interpeller un peu tous nos responsables qui se battent pour pouvoir s'asseoir sur une chaise et essayer de nous dire ce qu'on a à faire. Eux, ils sont loin de pouvoir assumer leurs responsabilités. Nous, on a mis un coup de projecteur sur cette évasion fiscale, de leur dire cet argent-là qui est évadé, ça impacte nos hôpitaux, ça impacte nos instituts, ça impacte nos quartiers. Donc il y a un manque à gagner. On a réussi à interpeller des députés européens. De là, il y a eu des collègues des États-Unis qui sont descendus, des collègues d'Angleterre, on a été en Espagne, on a commencé à faire du bruit. Et notre lutte, elle a été relayée à l'international. On a parlé de nous sur Forbes, sur Washington Post. Forbes, je ne connaissais pas ce journal. Sur le New York Times, El País, au Canada, on a réellement fait le tour du monde. Et nous, on s'est dit, mince, malgré cette nuisance médiatique, ils ne veulent pas lâcher. Et ils ont essayé de vouloir fermer le restaurant. Après, ils n'ont pas réussi. Il y a eu une annulation de la vente du restaurant à un repreneur en paille. Il y a eu un licenciement économique. Comme on avait un gros coup de projecteur sur nous, l'inspection du travail a refusé. C'est monté chez la ministre du Travail, donc c'était Pénicaud, qu'il y avait un coup de projecteur sur elle, donc elle ne pouvait pas se prononcer. Donc il y a eu refus. Deuxième victoire, et comme on est passé au tribunal de commerce, là on est rentré dans une machine qui broie l'être humain. Nous on s'est dit, bon, le menteur, on va essayer de l'accompagner jusqu'à la porte de son mensonge. Dès qu'il y a eu la liquidation, elle a été prononcée en 2019, nous de suite on a assigné le liquidateur, l'AGS, McDonald's France, d'appliquer l'article 1224-1. Donc, Sodeba, qui nous employait, qui était une identité juridique, a été liquidé. Mais le fonds de commerce appartient à McDonald's France, les murs appartiennent à McDonald's France. Donc, nous, on leur a demandé juste de transférer nos contrats. On a été liquidé le 12, le 13 décembre 2019, ils ont transféré nos contrats. Ils les ont transférés dans une holding, pas de salariés, pas de patron. On s'est retrouvé à 73 salariés dans cette holding. On était mal. Donc, mais dans cette holding-là, on avait un peu regardez les comptes de cette holding, elle générait plus de 900 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Donc on s'est dit, waouh, c'est excellent, parce qu'il va avoir de la participation bénéfice. Mais comme on était dans une holding, on s'est retrouvé dans le néant, plus d'image de cette multinationale. Ils ont remonté les salariés contre moi, ils ont dit, bon, c'était de ma faute, si moi, je signais ma rupture conventionnelle, on pouvait trouver une solution pour les salariés. Donc j'ai donné un accord de principe. Du coup, je me suis retrouvé face à les salariés qui n'avaient pas de salaire, ils n'avaient pas de payer leur loyer pendant 3 mois. On a réussi à négocier une enveloppe de 1 600 000 euros de rupture conventionnelle pour une entreprise qui s'est mise en liquidation judiciaire, bien sûr. On ne sait pas d'où ils ont sorti cet argent, mais ils l'ont sorti. Moi, je leur ai posé une seule condition. Tant que je ne vois pas les salariés prendre cet argent, je ne peux pas signer. Une fois qu'ils ont pris les salariés et cet argent-là, ben, quand je me suis rendu avec mon avocat face à ce médiateur, j'ai déchiré cette feuille. Je leur ai dit, moi, j'ai rien à perdre. Le plus important, c'est de me mettre en face de vous. Et aujourd'hui, ben, ce qui compte pour moi, c'est de maintenir cet outil de travail. Cet outil de travail qui puisse maintenir un ascenseur social dans ces quartiers. Parce que moi, quand je suis rentré, j'étais un petit enfant, voilà, en perdition. Ça m'a appris à travailler en équipe. Cet outil m'a appris à reprendre confiance en moi. Il m'a appris à avoir une perspective d'évolution de carrière. Et donc, pour moi, il était hors de question que cet outil puisse disparaître. En plus, le restaurant faisait partie d'une zone franche. McDonald's a eu pas mal d'argent sur l'aide à l'embauche, sur la TVA. Donc, le restaurant, il a été déjà amorti depuis de nombreuses années. Et nous, on s'est dit, quoi qu'il arrive, c'est notre restaurant, c'est notre lieu, on va essayer de le maintenir. Il y a eu le Covid, peu de temps après. Donc ce restaurant, on l'a transformé en banque d'entraide. On a demandé gentiment à McDonald's pour pas que la police intervienne. Donc McDo a refusé. Nous avons réquisitionné le lieu avec les anciens salariés en off, parce qu'il n'y avait plus que moi comme salarié. Les associations, l'intersyndicale qui était là autour de nous, et les habitantes et les habitants, on a essayé de rendre la monnaie à une population qui n'avait pas peur de mourir du Covid, mais qui avait peur de mourir de faim. Ce lieu a rayonné pendant 22 heures sur 24, tout le long du confinement. Cette multinationale s'est donné les moyens de le fermer, mais malheureusement, c'était l'un des seuls restaurants qui rayonnait au monde, presque. Quand il y a eu la fin du confinement, ben, on s'est rendu compte que la misère, elle n'avait pas de week-end, ni de vacances, ni d'odeur, ni de couleur. On s'est dit, mince, nous, on s'est battu pour pouvoir préserver cet outil, pour pouvoir relancer l'outil de travail. Voilà, on n'a pas préservé cet outil pour faire de la charité. Mais on ne peut pas laisser tomber cette population qui est là, qui est en roue libre. Doucement, doucement, on a continué à monter notre projet et on a monté un projet de territoire parce que c'est une lutte de territoire. Et on a monté une SCIC, une société coopérative d'un intérêt collectif. Donc cette société coopérative d'un intérêt collectif, donc il y a le côté de l'entraide qu'on a délocalisé au fond du parking avec la distribution des colis alimentaires tous les matins et à peu près tous les lundis entre 600 et 800 colis qui est distribué le matin. Il y a le Uber solidaire qui veut dire union de bienveillance pour des repas d'entraide solidaire. On aime bien hacker, se réapproprier et détourner les phrases. Donc on livre les colis alimentaires pour les personnes qui sont en mobilité réduite et qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont âgées. Le jeudi, le dimanche, on fait les maraudes pour nos amis de la rue et on a monté une conserverie populaire. L'idée, c'est de travailler sur l'anti-gaspi et de transformer les produits qu'on ne peut pas redistribuer, qu'on ne peut pas distribuer. On les transforme en soupe, en compote ou en jus et d'autres techniques de conservation. Et pour boucler la boucle, ben, on s'est dit, comme on a pas mal de fruits et légumes, quand on transforme, il y a encore des déchets, on a installé un méthaniseur domestique. L'idée du méthaniseur domestique, c'est de jeter tous les déchets organiques pour pouvoir les transformer en biogaz. Et avec un cogénérateur, on essaiera d'alimenter le village d'initiative d'entraide. Mais on s'est dit, dans le fast social food, parce qu'au cœur du fast food, c'est le social, on a essayé de sortir notre propre identité, notre propre marque, mis en place la Fastronomique. La Fastronomique, c'est avec un grand chef étoilé, qui est Gérald Paceda. D'ailleurs, on le remercie de nous avoir donné un coup de main. et on a sorti l'OVNI étoilé. C'est l'OVNI étoilé, le pain il est local, c'est deux jeunes du quartier qui ont monté leur propre boulangerie. La viande elle est fraîche, elle est du boucher du quartier. Les fruits et légumes, eh ben, ils viennent des collègues d'à côté, des maraîchers. Et on a le côté classique, c'est la malbouffe que souvent où tout le monde aime bien manger, même si on sait que c'est de la malbouffe. Mais on essaye de faire de l'éducation populaire à travers le culinaire. On s'est dit, bon, on va arriver du jour au lendemain comme ça, en claquant les doigts, on va dire, on va vous apprendre à manger. Non, eh ben, doucement, doucement, on va essayer de démontrer que voilà, on peut mieux manger, moins cher ou à prix raisonnable. Et notre plus grande fierté dans, à travers cette lutte-là, c'est d'avoir préservé cet outil de travail et de lui avoir donné un sens. Ben, les travailleuses et les travailleurs aujourd'hui savent pour qui et pourquoi ils travaillent. Et quand la clientèle elle vient se restaurer chez nous, eh ben, elle sait où son argent y va.
Attends, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.